Salut à tous et bienvenue sur EDJFM pour ce journal de la politique, avec à la une de l'actualité aujourd'hui l'agenda de l'allègement des mesures sanitaires annoncé hier par le Premier ministre Jean Castex. Les autres titres, Noémie.
L'Assemblée nationale reconnaît officiellement le génocide des Ouïghours et la pagaille est toujours présente à gauche avec la primaire populaire.
Et puis plus près de chez nous, une nuit des solidarités à Nice et Éric Zemmour en déplacement dans les Alpes-Maritimes. Et on commence ce journal avec vous, Noémie.
De nouvelles mesures sanitaires vont bientôt entrer en vigueur, comme l'a annoncé hier le Premier ministre Jean Castex à l'issue d'un nouveau Conseil de défense. Trois dates sont donc à inscrire dans vos agendas. Dès ce lundi, le pass vaccinal sera obligatoire pour se rendre dans les lieux où le pass sanitaire est nécessaire jusqu'à présent. Le 2 février marque quant à lui la fin des jauges dans les cinémas ou les stades, ainsi que la fin du télétravail obligatoire. Et pour finir, le 16 février acte la réouverture des boîtes de nuit et le retour des stands de nourriture dans les cinémas, théâtres et les stades de foot. Et on continue avec les Jeux Olympiques de Pékin qui commencent le 4 février et le gouvernement chinois est clair sur ses restrictions. Malgré les nombreuses polémiques qui couvrent le pays, les athlètes ont fort intérêt à ne pas les évoquer. Victoria Guillou nous en dit plus.
La compétition commence dans deux semaines. Les athlètes qui s'envoleront pour participer aux Jeux de Pékin ont été priés, au cours d'un séminaire, de ne pas s'exprimer sur la question des droits de l'homme. Une fois arrivés en Chine, il en va de leur sécurité. Pas certains de la protection accordée aux athlètes par les autorités chinoises. Les lois du pays sont également très vagues concernant les crimes qui peuvent être utilisés pour restreindre la liberté d'expression. Pour rappel, plusieurs associations de défense des droits de l'homme ont critiqué le fait d'avoir attribué les Jeux d'hiver de 2022 à la Chine, citant notamment le traitement réservé par le gouvernement chinois aux Ouïghours.
Et alors, qu'en est-il de la France après les annonces d'hier ? Un boycott est-il prévu ?
Alors non, Noémie, la France ne boycottera pas les Jeux cette année, bien qu'effectivement elle ait lancé un signal fort hier. L'Assemblée nationale a adopté une résolution dénonçant le génocide des Ouïghours. Elle porte précisément sur la reconnaissance et la condamnation du caractère génocidaire des violences politiques et des crimes contre l'humanité par la Chine à l'égard de cette minorité. Ça fait plus de 2 ans maintenant que les défenseurs des droits humains accusent Pékin de persécuter la minorité musulmane. Plus d'un million d'entre eux seraient internés dans des camps et le témoignage raconte l'horreur. Le président Emmanuel Macron, quant à lui, a appelé à dépolitiser les JO, ajoutant qu'il fallait être clair. Soit on fait un boycott complet, on n'envoie personne, ou alors on essaie de réengager les choses.
Editis achète le JDD, Paris Match, Prisma Media, Europe 1, Havas, Canal+. Vincent Bolloré était hier au Sénat pour s'expliquer sur son empire médiatique tentaculaire. Pendant 2 heures, l'homme d'affaires a répondu aux questions des élus de la commission d'enquête sur la concentration des médias. Nous sommes tout petits, a pourtant minimisé Vincent Bolloré, comparant ainsi son entreprise Vivendi aux géants asiatiques et américains comme Netflix. Et pendant ce temps-là, la cacophonie continue à gauche, William Bornensin.
En avril, il sera trop tard. C'est le cri d'alarme de 100 personnalités du monde de la culture qui appellent les partis de gauche à rejoindre la primaire populaire. Cette initiative citoyenne consiste à proposer un vote du 27 au 30 janvier pour désigner un candidat commun à gauche pour la présidentielle. Parmi les personnalités à s'être mobilisées, on retrouve les comédiens Juliette Binoche et Charles Berling. Le scrutin concerne 7 candidats, Anne Hidalgo, Christiane Taubira, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, mais aussi le député européen Pierre Larouturou et les candidats issus de la société civile Charlotte Marchandise et Anna Aguet Porterie. Ces 3 derniers sont avec Christiane Taubira les seuls à être favorables à ce projet de primaire populaire. Anne Hidalgo souhaite que son nom soit retiré du scrutin, tout comme Jean-Luc Mélenchon, qui trouve ce projet déloyal. De son côté, Yannick Jadot, déjà vainqueur d'une primaire chez les Verts, refuse de se soumettre 2 fois à l'exercice. Quoi qu'il en soit, avec ou sans candidat, le vote aura bien lieu. Rendez-vous le 30 janvier pour le résultat.
Erasmus fête ses 35 ans. Le programme européen est un puissant atout pour les pays membres. Jean-Michel Blanquer souhaite que les futurs enseignants participent de plus en plus à ce programme. Victoria Guillou nous explique.
Avec une enveloppe de 24,6 milliards d'euros pour la période 2021-2027, le budget d'Erasmus+ progresse de 80%, a annoncé Jean-Michel Blanquer à l'occasion de la présentation des nouveautés du programme. Il évoque les académies Erasmus des enseignants. Le ministre souhaite que le programme européen fasse partie intégrante de leur formation. Chaque année, c'est 100 000 Françaises et Français qui ont la chance de connaître cette formidable expérience de vie, riche de rencontres, de découvertes et d'apprentissage. Thomas Fabregues est l'un d'entre eux. Il s'envole pour Valence, en Espagne, dans quelques mois.
Ça va me permettre de découvrir plein de nouvelles choses, donc un nouveau pays, une nouvelle culture, de nouvelles personnes. Ça me donne aussi l'opportunité d'aller étudier en semestre dans une université qui est assez réputée en Espagne, donc l'Université Polytechnique de Valence. Et à moindre coût, vu que je pouvais payer les mêmes frais de scolarité que l'INSA, qui est une école publique en France. Donc voilà, c'est plutôt chouette. En plus, financièrement, on est aidé par des bourses. Ça va permettre de faire une pause dans ma scolarité. Donc ça fait 4 ans que je suis dans la même ville, que j'étudie les mêmes choses. Et donc là, voilà, ça va permettre de faire un semestre un peu plus tranquille, où je vais pouvoir de voir de nouvelles choses.
Hier, le président Emmanuel Macron a énoncé les multiples propositions pour améliorer le programme, notamment celle de la création d'un réseau d'ambassadeurs Erasmus+, pour donner une impulsion nouvelle à la richesse de cette expérience.
Un an plus tard, les sénateurs Les Républicains tentent à nouveau leur chance. Ce mardi, ils ont voté un amendement interdisant le port de signes ostentatoires religieux lors de compétitions sportives, avec 160 voix pour et 183 contre. Ils avaient déjà tenté de faire passer cette mesure à l'occasion de la loi contre le séparatisme, finalement retoquée par l'Assemblée nationale. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, nous assez critiqué cet amendement en mettant en avant le contrat d'engagement républicain que les associations sportives doivent signer et qui est issu de cette même loi contre le séparatisme.
Jean-Marc Governatori remet une pièce dans la machine. 4 mois après ses 2,35% à la primaire écologiste, l'élu d'opposition à la mairie de Nice se relance dans la course à l'Elysée. Le désormais candidat alerte sur la pénurie à venir des matières premières et veut généraliser le système d'échanges locaux. Mais sous les couleurs de l'écologie au centre, Jean-Marc Governatori n'y croit pas. « Je n'obtiendrai pas les 500 parrainages », dit-il à Nice ce matin. Ils étaient plus de 200 bénévoles hier soir à compter les sans-abri de Nice, Julien Bergognin.
Partout en France, municipalités et associations sont parties à la rencontre des plus démunis dans le cadre de la Nuit des Solidarités. Objectif, mieux connaître le profil et les besoins des personnes vivant à la rue. Alors les sans-abri niçois sont-ils plus nombreux que les années précédentes ? Pour Jennifer Salbarbosa, adjointe chargée des solidarités de la ville de Nice, la réponse est non.
On ne constate pas une évolution flagrante. Il y a des gens dans la rue, bien évidemment. Ça, c'est le symbole aussi qu'il y a des gens qui sont en grande précarité, mais il y en a toujours eu. Donc finalement, aujourd'hui, pas plus qu'hier.
185 sans-abri recensés, pas plus qu'hier selon l'élu. Ce n'est pourtant pas ce qu'observe la présidente de l'association Solidarité 06. Cela fait 10 ans que Tania Jakic organise des maraudes dans les rues niçoises. Avec l'aide d'une centaine de bénévoles, elle distribue chaque semaine des repas et du réconfort à ceux qui n'ont rien. Un travail titanesque qui n'est pourtant pas subventionné par la mairie. Questionnée à ce propos, Jennifer Salbarbosa peine à justifier l'absence du soutien financier municipal.
Jusqu'à présent, cette association n'avait jamais sollicité la ville. Une collectivité n'a pas à s'ingérer, à avoir un pouvoir d'ingérence dans une association. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on ne nous a jamais sollicité de subvention.
Une absence de sollicitation qui arrange bien la mairie. La politique du social et de la solidarité est-elle l'affaire de bénévoles ? Pour rappel, les sans-abri meurent en moyenne à 48 ans et ils n'attendent pas la Nuit des Solidarités pour cela.
Toujours dans la région, Éric Zemmour commence une tournée dans les Alpes-Maritimes et le périple débute ce vendredi puisque le candidat d'extrême droite se rend en milieu d'après-midi au poste Saint-Louis à la frontière italienne de Menton. Éric Zemmour ira ensuite à Antibes en début de soirée pour dîner avec un collectif d'avocats issus de la grève contre la réforme des retraites. Demain, l'ancien polémiste passera par le marché provençal Fortville à Cannes avant de visiter le fort de l'île Sainte-Marguerite. En point d'orgue, un meeting au Palais des Victoires à 18h30.
Et s'il y a bien deux mondes qu'on ne pensait pas se rencontrer, c'est bien la télé-réalité et la politique française. Mais impossible n'est pas Magali Berda, l'agent des stars du petit écran se lance sur YouTube avec une émission politique. C'est au micro d'Europe 1 qu'elle a annoncé son nouveau projet, l'objectif rendre la politique plus accessible. Et pour la première vidéo, elle commence avec Éric Zemmour et c'est disponible dès ce dimanche à 10h. Et pour clore le journal, la carte blanche à William Bordensin.
Qui sera l'héritier de Macron Emmanuel ? Bienvenue dans la lutte pour la présidentielle. La course à l'Élysée est déjà bien lancée. 14 candidats, tous les dés sont jetés. Ils vont se succéder lors des deux prochains mois sur les plateaux télé pour récolter nos voix. Ils s'appellent Pécresse, Jadot et Mélenchon, Zemmour, Dupont-Aignan, Le Pen et Hidalgo, orchestre d'idéos et de propositions pour dompter les sondages, chacun sa partition. Y aura-t-il des litiges, des scandales judiciaires, des discours envoûtants et révolutionnaires ? De janvier à avril, c'est le temps des meetings, des foires à la saucisse, des manifs sur parking. le chant patriotique d'une France qui se rassemble, une France qui se dispute et se divise ensemble. Alors c'est obligé, il y aura les gagnants, les autres, les oubliés et les mauvais perdants qui devront s'adapter pendant au moins 5 ans. Mais quand au mois d'avril on comptera les voix, quand il sera venu le temps du résultat, réjouissons-nous malgré nos opinions diverses, les gauchers, les droitiers et même les ambidextres, d'avoir influencé le destin d'un pays, d'avoir été acteur de la démocratie.
Merci William, et c'est la fin de cette émission 100% politique. Merci à tous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.